I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, Olivier Dartigol, Paul Menin, Jérôme Béglé et Gilles William Golnadel. Bonsoir, vous êtes de retour, vous étiez à Tel Aviv samedi soir.
Oui.
Et vous allez témoigner, rapporter la nuit que vous avez...
C'est une nuit blanche, hein, une nuit où on ne pouvait pas dormir puisqu'on nous annonçait que les drones allaient arriver. Alors les drones, on disait que les drones allaient mettre 4 heures, 5 heures pour arriver et que les missiles balistiques arrivaient aussi, mais que ça mettait, je ne sais pas, une heure. Donc inutile de vous dire que vous êtes à côté de l'abri et que vous attendez. Moi, qui ne suis pas d'un courage physique exceptionnel, j'étais dans la colère. J'étais dans la colère. Et puis, puisque je devais repartir le lendemain avec mon petit-fils à Paris, je me disais que je ne pouvais pas. Je n'imaginais pas un seul instant que 99% des missiles allaient être arrêtés par le Dôme de Fer et quelques autres. Donc ça a été... c'était encore une nuit que je n'imaginais pas non plus vivre un jour dans ma vie.
Personne ne reste chez soi dans ces cas-là. Tout le monde sort de son appartement, de sa maison et va faire un abri.
Non, parce que en principe, en tous les cas là où je suis, les gens ont une des chambres de votre appartement ou de votre maison.
Pièce renforcée.
Est une pièce renforcée. Donc je n'avais que quelques mètres à faire.
Vous avez une maison là-bas.
Oui. Donc voilà. Mais la colère.
On parlera évidemment de l'aspect diplomatique et des conséquences, mais ce qui est incroyable toujours avec Israël, c'est que ce matin, tout le monde travaillait. Il y a une forme de résilience. Tout le monde repart travailler.
Mais vous ne croyez pas si bien dire, puisque moi, on me dit que le ciel est fermé. Le ciel est fermé à 2, 3 heures du matin. Comment voulez-vous que j'imagine, même en étant optimiste, que je vais pouvoir reprendre l'avion à 10 heures du matin ? C'était incroyable et tout, pour tout dire inespéré. Oui,
c'est ça qui est toujours. C'est-à-dire que les Israéliens vivent avec cette peur, toujours et tout le temps, mais vivent avec. Oui. C'est-à-dire que sortent, vont au restaurant.
Très sincèrement, nous n'étions pas dans la peur. Je vous assure, peut-être.
Oui, mais c'est. Parce qu'il y a une forme d'habitude, peut-être, mais ce que vous racontez.
Oui, alors que c'était nous.
Théoriquement,
Oui, mais je vous l'accorde. Puisque
ça a généré la peur, a priori.
Oui, je vous accorde que c'était tout à fait nouveau. Des missiles balistiques, c'était tout à fait nouveau.
Et nous n'étions pas là-dedans. Israël est très confiant dans son dôme de fer, qui est quelque chose d'unique au monde et d'une sécurité...
À vous dire le vrai, moi qui ne suis pas souvent optimiste, j'imaginais en plus que le Hezbollah allait s'en mêler, et que dans ce cas-là, le dôme de fer allait totalement... en partie saturé et que ça allait quand même passer ici ou là.
Bon, il y a beaucoup de Français qui sont là-bas, beaucoup de Français qui ont fait leur alia. J'imagine qu'ils viennent vers vous parce qu'ils vous écoutent, ils nous écoutent ce soir. Et c'est l'occasion de leur passer un message évidemment de sympathie, bien sûr.
Bien sûr.
Parce que ce qu'ils vivent là-bas, et vous disiez, vous êtes revenu avec votre petit-fils.
Oui.
Et donc une partie de votre famille.
Oui, et qui est toujours là-bas. Oui.
Bien sûr. Bon, on parlera évidemment de beaucoup de conséquences, je l'ai dit tout à l'heure, diplomatiques notamment, mais voyez, il y a une députée qui a demandé l'annulation d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon à Lille, une conférence portant sur l'actualité en Palestine qui devait se tenir jeudi à l'université de Lille. La députée Renaissance, Violette Spilleboux, qui était venue d'ailleurs sur notre plateau, souvenez-vous, un soir, demande son annulation comme l'a fait Rennes ou Bordeaux. La députée Renaissance a interpellé le président de l'Université de Lille, Régis Bordet, ce matin sur Twitter pour lui demander l'annulation d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan portant sur cette actualité. Violette Spielbou dénonce une conférence de propagande prévue alors que les débats se radicalisent. Et on va voir deux ou trois petites séquences qui, effectivement, vont dans ce sens-là, et notamment ce qui s'est passé à Montpellier ce week-end. Il y a également un tweet de Xavier Bertrand que vous pouvez voir. Nous ne pouvons tolérer dans une université française une telle conférence de la France insoumise qui, à travers le logo Libre Palestine, nie l'existence de l'État d'Israël. Je ne sais pas si vous avez vu
le logo, il est incroyable.
Bien sûr, la conférence, Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, Université de Lille. Est-ce qu'on l'a vu, cette affiche de la conférence, Actualité en Palestine, Libre Palestine, ça veut dire à droite.
En fait, ça veut dire que la Palestine englobe Israël.
Exactement. Libre Palestine.
Il y a un seul pays qui est donc la Palestine.
De la mer au Jourdain.
Vous avez parfaitement raison. Il y a également Émilie Gomis, que vous connaissez, qui était une ancienne basketteuse professionnelle, qui a pris la parole ce week-end. L'Iran a le droit de défendre, de se défendre, a-t-elle dit. Vous avez Ersilia Soudet, qui est une députée, cette fois-ci, de la France insoumise, qui a dit ces deux pays, Iran et Israël, sont deux théocraties. Donc elle renvoie le régime des Mollahs à la démocratie, qui a sûrement des défauts, la démocratie de Netanyahou, bien évidemment. Mais il ne me semble pas, il ne semble à personne qu'on puisse comparer la vie en Israël et la vie en Iran, bien évidemment. Donc ces deux pays sont deux théocraties. Par ailleurs, en bombardant une ambassade iranienne, Israël a déclaré la guerre à l'Iran. Et on n'oublie pas les bombardements d'Israël au Liban et le génocide des Palestiniens. La situation est trop grave pour faire des approximations. Et puis je voulais vous faire écouter une séquence. Cette fois-ci, c'est dans un meeting à Montpellier où on entend dans ce meeting Israël assassin. Et Rima Hassan, qui est donc bien placée, je crois qu'elle est
septième
sur la liste de la France insoumise, a pris précisément la parole dans ce meeting.
La Palestine est un sujet européen, car nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des Palestiniens. Alors, camarades insoumis, je compte sur vous, je compte sur votre mobilisation le 9 juin prochain pour qu'on reconnaisse enfin l'État de Palestine comme va le faire l'Irlande et l'Espagne. Pour les Ukrainiens comme pour les Palestiniens, nous sommes le camp de la paix.
Régine Delfour, que notre envoyée spéciale en Israël et vraiment à qui nous pensons ce soir parce qu'elle est sur place en Israël, m'envoie à l'instant ce texto. Daniel Hagari, porte-parole en chef de Tzahal, annonce une riposte. Il est possible que le commandement de la défense passive décide de réimposer dans les prochains jours les recommandations de sécurité au public. Ce serait donc avant Pessah. Il y a des bruits ici qui parlent d'une riposte imminente, nous dit-elle. On va précisément parler de la réponse dans une seconde. Mais on termine sur ce sujet avec la France insoumise.
Il est possible, bien sûr, de critiquer la politique du gouvernement israélien sur un certain nombre de sujets, mais il n'est impossible de mettre un signe d'égalité entre la démocratie israélienne et le régime islamiste en Iran. Comme il est impossible de ne pas caractériser avec des mots très précis le pogrom du 7 octobre. Donc ces gens se sont, avant le 7 octobre, décrédibilisés et même ont été marqués du déshonneur par leur incapacité à dire que le Hamas est un mouvement terroriste. Et ils ne peuvent donc pas défendre une solution à deux États, d'abord parce qu'un certain nombre d'entre eux dit en effet de la mer au Jourdain, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'existence pour Israël. Absolument. Et pour d'autres, par électoralisme pur, ils sont sur une c'est même plus le fil du rasoir.
On verra si c'est productif, cet électoralisme pur. Parce que c'est quand même prendre En l'occurrence, les Français.
Il y a pas mal longtemps sur ce plateau, j'ai dit.
À long terme, ça sera pas payant.
Pendant longtemps sur ce plateau, j'ai dit, ça peut être un calcul gagnant. Je ne le crois.
Non, mais pas de moins en moins.
Selon la semaine, les votes, enfin les sondages montrent que la liste de Mme Aubry est maintenant à 8%, voire 7,5%.
Bien sûr.
Or, je rappelle que
tous les Français musulmans ne sont pas pour la destruction d'Israël.
Je pense que c'est une petite minorité.
Merci. Alors ça, je n'en sais rien non plus. Le coup de petite minorité, qui est une sorte de mot valise, qui est ressorti sur tous les sujets.
On n'en sait rien, mais
l'échec prévisible. C'est pourquoi je dis.
Mais c'est.
En fait, il y a des mots qu'on pourrait ne plus jamais employer. On ne lâchera pas. Voilà, le mot qu'on cite généralement de Camus, tout ça. Et pareil, la petite minorité. Oui. On pourrait faire l'impasse là-dessus, parce que ni vous ni moi. Ne le savons. Non, mais ça rassure vous les uns et les autres de le dire.
On n'en sait rien, c'est disserté sur le sexe des anges, comme on dit. Mais ouais. En tout cas, la France insoumise ne gagnera pas sur cette base-là à long terme. Et je pense que cet électoralisme leur en cuira, moralement, mais aussi politiquement. J'observais il n'y a pas longtemps, je crois que c'est vos confrères du Parisien qui ont sorti l'information, que des listes Free Palestine sont en train de se monter dans un certain nombre de pays d'Europe.
C'était déjà le cas,
et que l'avenir de la France insoumise, c'est de se faire doubler par des listes authentiquement soucieuses de l'islam politique.
Mais ces listes font moins de
2%. Oui, mais c'est vrai que la France, pour le coup, et Emmanuel Macron l'a souligné plusieurs fois, la France tient sans doute mieux que Londres, tient sans doute mieux que New York,
pourquoi
visiblement aujourd'hui, que tient mieux visiblement aussi que la Belgique. Donc il y a aussi quelque chose en
la
France.
La différence entre un multiculturalisme et un État laïque.
La Belgique, c'est pas le multiculturalisme.
Non, mais Londres, les grandes manifestations de Londres sont stupéfiantes.
Bien sûr. Oui, enfin, j'ai deux ou trois choses à dire. Pour répondre à ça, je veux bien, mais enfin, c'est en France et pas à Londres qui a eu le pire massacre antisémite ces dernières années. Voilà, la réalité, elle est là. Les écoles juives où Mera a été sévir, l'hypercachère, tout ça, c'est pas à Londres, c'est en France. Donc il y a peut-être, il y a des manifestations ailleurs, mais là, il y a des meurtres. Je veux dire aussi, par rapport à Mme Soudet, il faut voir le déclin moral général et particulier par rapport aux insoumis. Il fut un temps quand même où l'être doté d'un tout petit peu d'humanité savait faire la différence entre un immense pays pétrolier de 90 millions d'habitants, qui est en plus une tyrannie islamique, et un petit pays entouré d'ennemis de 9 millions d'habitants, certes critiquable, mais à structure démocratique. Perdre ne serait-ce que ce sens-là des dimensions et de l'égalité ou de l'inégalité, c'est une perte d'humanité.
Une séquence au Parlement que je voulais vous montrer avant d'imaginer la riposte possible. C'est une séquence dans le Parlement iranien où tous les députés crient unanimement à mort Israël. C'est une des images fortes, évidemment, du week-end. Je rappelle que l'Iran n'a toujours pas la bombe atomique.
Et je rappelle qu'en 1980, l'ayatollah Khomeini a professé la destruction de l'État d'Israël et qu'aucun de ses successeurs n'est revenu sur sur ce vœu, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, et que donc, cette menace, elle est pendante, elle est réelle et elle n'a jamais été remise en cause par qui que ce soit derrière.
La riposte, à présent, Emmanuel Macron, ce matin, chaque mot est important. Chaque mot est important. Donc écoutez le président de la République.
Les Iraniens ont répondu. Mais ils ont répondu de manière, si je puis dire, disproportionnée, parce qu'au lieu d'aller toucher des intérêts israéliens en dehors d'Israël, eh bien ils ont été chercher Israël sur son sol, depuis leur sol, ce qui est une première. C'est un changement, une rupture profonde. Et donc c'est pour ça que ce qui s'est ouvert est très dangereux en termes de réaction. Donc très clairement, c'est l'Iran qui a décidé de frapper Israël dans le contexte d'une manière inédite. Ah.
Ce n'est pas le même passage que ce matin, je le dis pour Benjamin, et on ne parle pas de. Le mot riposte n'est pas prononcé. Donc c'est dommage parce que ce n'est pas cet extrait-là que je vous fais.
Il dit que la riposte est disproportionnée au tout début.
Oui, mais c'est la riposte qu'il propose pour l'Iran qui est le plus intéressant.
Ah oui.
Donc, si on peut...
Sauf que même cela, c'est faux. Jeudi dernier, jeudi 11 avril, la justice argentine a condamné l'Iran pour l'attentat contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires. D'accord ? Donc, venir dire que c'est une grande première d'attaquer l'annexe d'un consulat où il y avait des gardiens de la Révolution, c'est déjà un mensonge. Donc, dire que l'Iran a riposté, ça n'est pas vrai. Bon. Ça n'est pas vrai. C'est la riposte à la riposte.
Bon. Quelle riposte, en tout cas ?
Oui, ça peut se discuter,
Mais je veux dire, ce qui ne se discute pas, c'est qu'il y a eu un. Avant le consulat, il y a eu l'ambassade. Ça ne se discute pas.
Quelle riposte, c'est pour ça que le mot d'Emmanuel Macron était intéressant. Quelle riposte doit proposer Israël ?
Voilà. C'est ça aujourd'hui la question.
C'est ça la question ce soir qui va se poser. On pouvait imaginer que ce soit après Pessah et ce sera sans doute. Quoi, sans doute ? Je prends des précautions, bien sûr, c'est ce que nous disait Régine Delfour qui est sur place. Quelle riposte, selon vous, qu'est-ce que souhaitent les Israéliens ? Que pensez-vous ?
On en connaît la graduation possible.
Dans un monde idéal et de bonne foi, les Israéliens, y compris l'ensemble du gouvernement et même de l'opposition, souhaiteraient évidemment une riposte qui détruirait les usines atomiques iraniennes. Sauf que... Si les Israéliens ne sont pas sûrs de disposer de la protection américaine, encore une fois, si le Hezbollah s'en mêle en même temps que l'Iran, il peut y avoir 10 000 morts en Israël.
Écoutons M. Blinken, qui ne souhaite pas d'escalade.
Nous ne cherchons pas l'escalade, mais nous continuerons à défendre Israël et à protéger nos effectifs dans la région. Au cours des 36 heures qui ont suivi, nous avons coordonné une réponse diplomatique pour tenter de prévenir une escalade.
C'est vrai. Bon, comment vous décryptez les propos américains ?
Alors, je ne décrypte pas. Je pense que le monde, les Occidentaux ont très peur d'un embrasement qui viendrait les chatouiller jusqu'aux portes de l'Europe, pas les portes des États-Unis, et que donc on se dit si Netanyahou ou si Tsahal va trop loin. Il peut y avoir un effet boule de neige derrière. Oui. Après, dans les ripostes, il y en a deux qui me semblent envisageables. Pardon de l'expression, mais faire la peau à Nasrallah, le leader du Hezbollah, serait quelque chose qui ne dérangerait personne au-delà des frontières de l'Iran, du Hezbollah et éventuellement du Yémen.
Bien sûr. Au Liban.
Au Liban. Idem, le patron, le chef du Hamas, qui est quelque part, sans doute, dans le sud de la bande de Gaza. Si par hasard, il devait aussi perdre la vie,
ils savent pas,
personne ne l'aurait. Voilà ce que c'est.
Il faut
compliqué à mettre en place toutes les deux. Il faut les avoir localisés, il faut savoir comment on les tourne.
On va marquer une pause. On écoutera peut-être M. de Villepin, avec qui vous entretenez les meilleurs rapports. Bruno Le Maire.
Oui, sur l'économie française.
Bruno Le Maire, lui, il a déjà ouvert le parapluie. Une dégradation supplémentaire au Proche-Orient et au Moyen-Orient aurait un impact économique lourd. Tout de suite, il a tweeté. Aujourd'hui, l'autre jour, c'était la Russie. Dès qu'il y a un souci, hop, c'est pas de ma faute. C'est formidable, d'ailleurs.
Ça sera dommage parce que ça va tellement bien.
Bien sûr. Il va venir un soir, monsieur le maire. Ça sera intéressant, au contraire, d'échanger avec lui. Et on marque une pause et on revient tout de suite. Évidemment, ce chapitre important consacré ce soir à Israël. Pourquoi est-ce que Netanyahou qui annonce l'action militaire de la France à ses côtés cette nuit ? Comment est-ce possible sans accord de défense entre nos deux pays ? Il est temps d'admettre qu'en démocratie, on ne peut accepter de voir son pays entraîné dans une guerre générale par la seule décision personnelle du président. S'il s'agissait de protéger les positions militaires françaises sur place, même si l'on est d'accord, le problème est désormais posé. Jusqu'où irons-nous et dans quel but ?
Vous avez des drones ou des missiles qui passent au-dessus de vos bases.
À la demande de la Jordanie, bien sûr.
Il y a des bases françaises en Jordanie. Enfin, ça me paraît être.
Dominique de Villepin. Dominique de Villepin qui était ce matin sur France Info.
Oui. L'ambiguïté diplomatique, elle est aussi là pour ça. Donc, autoprotection, parce que nous avons un certain nombre d'enclaves ou d'emprises militaires dans cette région, depuis Djibouti, en Irak, en Jordanie, dans les Émirats arabes unis. Donc, avec les Jordaniens, au service des Jordaniens, nous assurions une protection et qu'in fine ce soit Israël qui, en l'occurrence, en ait bénéficié, c'est une chose. Que la France, dans sa rhétorique diplomatique, dans son discours diplomatique, dise que nous sommes intervenus, que nous sommes partie prenante à ceci, ça comporterait un inconvénient particulièrement grave. Ce serait de nous introduire dans ce cycle et dans ce risque d'engrenage d'action-réaction.
Il n'y a pas complètement tort. La France a un rôle aussi de conserver un centre de bonne relation avec des alliés arabes dans la zone qui peuvent être utiles, y compris pour Israël. C'est-à-dire que là, les Iraniens ont mis Benjamin Netanyahou dans un dilemme insoluble. C'est-à-dire que, ou il riposte, et auquel cas il sera isolé sur la scène internationale parce que les Américains le suivront vraisemblablement pas, ou alors il ne riposte pas et on dira il concède la défaite et c'est une victoire pour l'Iran. Dans les deux cas, c'est absolument terrible et c'est extrêmement cynique comme calcul de la part des Mollahs.
On observera d'abord que ça a été un échec. L'attaque iranienne et que ça a permis aux alliés de se renforcer, en tout cas de se mettre autour d'Israël.
Les accords d'Abraham.
Exactement. Et que Israël, après cela, ressort d'une certaine manière renforcé. C'est peut-être un des paradoxes
et que la défense
de cette séquence.
Est de très haut niveau.
Et c'est ce que ne voulait sans doute pas l'Iran. Autre sujet.
Ses faiblesses.
Oui. Et que
l'armée iranienne a montré ses faiblesses. Et sans doute la vétusté de son matériel.
Si on est d'un naturel inquiet, on peut se dire qu'ils ont aussi en réserve, ce que disent un certain nombre de spécialistes en géostratégie, ils auraient des réserves d'armes et de munitions extrêmement importantes. Et que là, c'était
la cérémonie.
Avec des drones à bas coût.
Ah oui, la cérémonie. La cérémonie d'ouverture. Parce que ce matin, le président de la République était sur RMC. Il était invité à près de 100 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris. Moi, j'ai l'impression qu'on nous prépare tranquillement, gentiment.
Le plan B, le plan C.
J'ai l'impression que le plan B va devenir le plan A. Mais
le plan C, le plan A.
Mais je me dis pourquoi on ne le dit pas tout de suite. Mais je ne suis
pas sérieux.
Oui, mais qu'est-ce qui va changer? Il y a un moment où il faut prendre une décision. On est quand même dans un climat globalement incertain.
Vous pouvez peut-être davantage sécuriser le Trocadéro ou le Stade de France.
Ah, ça c'est sûr.
Oui, mais non, ça sera quand même sur la scène. Quoi qu'il arrive, ça sera sur la scène.
Resserré.
Mais oui, ça sera, effectivement, ça sera. Mais resserré avec. Godric Bey, voyez le sujet et l'intervention du président Macron ce matin.
Un projet démesuré qui mérite un plan B. Sur le chantier gigantesque du Grand Palais qu'Emmanuel Macron a visité ce matin. Le président a pris du recul sur la cérémonie d'ouverture prévue sur les bords de Seine. Face à la menace terroriste, il a évoqué des possibilités alternatives et moins ambitieuses.
On va se donner les moyens de faire une très grande cérémonie d'ouverture. Si on pense qu'il y a des risques, en fonction de l'analyse qu'on fera du contexte, on a des scénarios de repli.
Emmanuel Macron a ensuite détaillé les deux scénarios envisagés.
On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple. Mmh. Et donc, on ne ferait pas toute la scène si on se dit, si l'analyse permettait de...
S'il faut restreindre le lieu.
Exactement. Voire qui rapatrierait dans le Stade de France.
Même si l'option principale reste la priorité, le nombre de spectateurs bénéficiant d'une place gratuite pour assister à la cérémonie a déjà été divisé par deux, passant de 500 000 à 222 000 spectateurs.
On ne peut pas donner tort au président de la République de prendre toutes les précautions pour qu'il n'y ait pas de drame.
Il fait preuve de bon sens. C'est beaucoup plus facile, a priori, selon les spécialistes de sécurité, d'organiser un événement dans un espace clos comme le Stade de France que partout dans Paris. Ça paraît un peu logique. Donc je vois pas ce qui...
On l'a juste découvert le 15 avril.
C'est un peu ça.
Ce qu'on peut déplorer, c'est que on nous aura fait rêver avec une magnifique cérémonie sur la Seine et on se retrouvera...
Et peut-être dépenser quelques centimes.
Et ça, c'est, sans doute dépenser quelques millions pour faire des travaux exploratoires pour ce scénario et on pourrait se retrouver quelque chose de plus mesuré.
Depuis, il y a eu le Bataclan russe, c'est le même groupe qui nous menace directement. Ça a changé un peu
mais
deux ou trois choses.
Peut-être faut-il prendre une décision rapidement.
Ah oui.
Ça, c'est peut-être.
Sûr. Ça, c'est sûr.
De toute manière, à 100 jours... S'il y a le plan B, il doit être activé dans les toutes prochaines semaines.
Bah oui,
certainement.
Bon, le président de la République a souhaité également que la France soit dans les 5 premières nations.
Mais on avait fait 33 médailles à Tokyo. Il faudrait donc là en faire une centaine.
Bah, a priori, effectivement, quand tu es sur, quand tu joues sur place,
oui.
Tu joues les Jeux Olympiques de ta vie et le sportif.
Et il dit que la France devrait devenir une grande nation sportive, ce qu'elle n'est pas, contrairement à d'autres pays, qui laissent une place beaucoup plus forte au sport
Dans le temps scolaire.
Oui, alors quand tu as 240 millions de personnes comme les États-Unis, c'est peut-être plus facile aussi d'avoir quelques champions. Il n'y a pas de ministère des sports aux États-Unis, je le dis à chaque fois.
Parce que,
ben non, ça n'existe pas.
Vous voulez faire comme la...
Il n'y a pas... Je vais entendre...
Il y a une culture universitaire.
Il n'y a pas de ministère des sports. Je ne dis pas qu'il y a un rapport de cause à effet.
Il y a une culture universitaire du sport qui est incroyable.
Oui, oui.
Dans chaque université, vous avez des...
Non, mais tu as 250 millions de gens. Donc, tu pioches aussi sur un réservoir.
Dans certaines disciplines. On a des athlètes aujourd'hui qui se préparent quasiment seuls.
Et d'ailleurs, j'ai dit 250, c'est 330 millions. Vous voyez, j'ai des chiffres, je suis resté à ma terminale.
Dans certaines
disciplines,
on a des champions qui se préparent quasiment seuls, qui n'ont pas le soutien quand la fédération n'est pas
très riche. Je pense que c'est pareil dans toutes les
fédérations. Vous pensez à quel sport?
Je n'ai pas là.
Bon. Le président de la République était ce matin donc sur AMC. Il est revenu sur la polémique Aya Nakamura.
Oui, il avait raison.
Comment ?
Depuis dimanche, c'est réglé.
Là, ce qu'il a dit,
mais non, mais il a raison, le président, sur ce point. Écoutez, on dit suffisamment.
Qu'est-ce qui vous arrive ?
Mais non, il m'arrive rien du tout.
C'est un sujet sensible.
Écoutez, on a suffisamment mis en cause la politique d'Emmanuel Macron dans tellement de domaines qu'on peut, lorsqu'il dit quelque chose sur lequel on peut être raccord avec lui, on peut le souligner.
Oui.
Il ne s'agit pas d'être. D'avoir des œillères. Donc écoutez ce qu'a dit le président sur Aya Nakamura. Un peu de nuance, s'il vous plaît.
C'est la meilleure de
l'air. Elle fera partie des artistes. Là aussi, j'ai parfois entendu beaucoup.
Ça vous a choqué ?
Les réactions m'ont choqué. Ouais. Mais parce que je pense aussi, il y a eu des réactions vraiment racistes. Ça m'a choqué. Il y a eu des réactions qui ont été des incompréhensions. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris qu'il y avait d'abord quatre cérémonies, mais qu'au-delà de cela, la cérémonie d'ouverture, on va avoir des centaines d'artistes mobilisés.
Ah oui. Voilà, il n'y aura pas Aya Nakamura au milieu
ça
ne
sera pas seul.
Voilà. Évidemment. Donc en fait, c'est un autre sujet.
Ben oui, je suis d'accord.
Cela a été un sujet à un moment donné. Oui, puisque sur la première annonce, ça a quand même n'a pas la même.
Une annonce de qui ? C'était une annonce de.
On n'a jamais trop bien.
Voilà.
Il faut voir les choses en face.
C'est pas une annonce officielle.
Aya Nakamura, c'est pas ma cam, c'est pas ce que j'écoute
c'est
le dimanche.
C'est l'Express qui avait ça.
En revanche, c'est l'artiste française la plus écoutée, l'artiste francophone même la plus écoutée dans le monde. À ce titre-là, elle a le droit de figurer parmi d'autres.
Ce qui est quand même
au moment des Jeux Olympiques.
Je vois que vous continuez à lire le JDD. Quand même.
Non, mais il y avait une sorte de. Écoutez, on ne va pas se raconter de salade. Il y avait une sorte de sous-texte dans les attaques qui existait, même dans la formulation des attaques.
Dans
si elle s'était
attaques.
Appelée Sophie de Brècheville, les gens n'auraient pas dit la même chose. Attaques. Vous le savez bien.
Non, mais bien sûr,
donc ça perlait.
Dans certaines attaques, c'était quand même agaçant de se faire traiter de raciste dès lors qu'on disait qu'on n'aimait pas Aya Nakamura.
Oui,
il y a une réaction qui est excessive à l'autre. Enfin, moi, je trouve ces paroles vulgaires et je n'arrive pas à déceler le talent chez Aya Nakamura, pardon. Et
mais
pour autant, je ne suis pas un raciste et j'ai aucun problème. C'est pas une question de couleur de peau. C'est une question.
Il a le droit de ne pas justifier son goût.
C'est terrible.
Il n'aime pas, il n'aime pas.
Si je vous disais, je n'aime pas Michel Sardou, par exemple,
je ne
parlerais plus.
Je quitte, je rentre chez moi.
Pourquoi vous dites en plus j'aime beaucoup Michel Sardou mais on dirait pas Michel Sardou parce qu'il est blanc.
Sérieusement, moi je connaissais pas Aya Nakamura.
Moi non plus.
Je suis allé voir les.
Tu la connais toujours pas d'ailleurs.
Oui mais
on connaît tout pas.
Vous êtes resté à.
Moi j'ai écouté.
Vous êtes resté à Lucienne de Lille. Vous êtes resté à Mère Silva.
J'ai pas encore eu l'occasion de l'entendre.
Sérieusement, est-ce que vous êtes allé lire? Moi je suis allé les lire. Je vous assure. Tu joues avec les mots, tu joues avec le français. Oui, tu joues avec le français, tu joues avec l'anglais, tu joues avec tout pour trouver des sonorités. Et il y a quelque chose qui est plutôt rigolo, pour tout dire, plutôt entraînant, plutôt sympa, plutôt marrant, etc. Je ne dis pas que ça va rentrer dans la Pléiade. Je dis que c'est de la chanson populaire. C'est tout, et que tu joues avec ça. Et que plein d'artistes ont joué avec les mots. Et
avec, à mon avis, plus de brio qu'elle. Mais bon, c'est qu'un avis. Après, mon avis est subjectif, comme tous les avis
artistiques
ou littéraires.
On peut aimer ou pas. Il y a quand même eu des retours sur le marché de Bamako.
C'est abominable. Aucune réaction de racisme.
33 médailles à Tokyo, certes, mais la base devait être 42 médailles à Rio, sans omettre l'augmentation du nombre d'épreuves à Paris.
Oui.
Me dit
l'ancien président. L'ancien
Est-ce qu'on
président...
peut comparer les performances de la Grande-Bretagne par rapport
l'ancien
à
l'ancien président du patinage artistique, oui. Comment Monsieur Gaillaguet,
oui, je
le cite, Didier Gaillaguet.
Comment s'en sortent les grands Bretons par rapport aux Français en sport? C'est pas très compliqué, c'est pas philosophique. Est-ce que l'Angleterre, la Grande-Bretagne,
a plus de médailles que nous
en
sport que la France?
Ça dépend des années.
Il faudrait regarder à Tokyo les 5 premiers.
Oui. Voilà. Non,
écoutez, je
alors c'est mieux ou c'est moins bien?
Ça dépend des années.
Eh ben, on va faire palmarès. La dernière fois, c'était où? Palmarès, médaille.
En cricket et en polo.
Palmarès, médaille. Vous voyez, on est en direct. C'est bien, vous posez des questions.
C'était Pékin la dernière fois.
Voilà, États-Unis 39, tableau des médailles, vous voyez. États-Unis 39, Chine 38, Japon 39, Grande-Bretagne 22. Voilà, ça c'est le tableau.
Et la France?
La France, elle a effectivement, elle est huitième. États-Unis, Chine, Japon, Grande-Bretagne, Australie, Pays-Bas, France. La France est huitième.
Ils sont 30 et quelques millions et ils sont devant nous, c'est pas
donc. Donc ma réponse.
Ah bon? Bah, j'ai donné que les chiffres de médailles d'or, mais alors effectivement, les chiffres ouais. Bon. En médailles.
Les médailles au total.
Bon, voilà. 113 les États-Unis, la Chine 88, le Japon 58 médailles, Grande-Bretagne 65, et la France en a. Ah, on a que 33 médailles.
Et oui, c'est ce qu'on disait, 33. Oui,
on est nul. Mais vous dites que la France n'est pas un pays de.
On n'a jamais été un pays
de sport. Vous êtes marrant, même de. Oui, on est bon en escrime, on est bon dans des. En bobsleigh, alors ça ne sera pas cette fois-ci. On est bon à la. On est bon.
Le judo, oui.
Mais on a des médailles, on est
sur l'athlétisme.
Voilà, on a.
Non, on est bon dans un nombre.
On est bon en volley, mais
bon. Dans les sports collectifs.
Exactement. Jamel Debbouze. Jamel Debbouze. Je vais vous montrer une interview sidérante.
Allez-y.
C'est formidable.
Faut prendre l'argent là où il est.
Jamel Debbouze a été interrogé par France Inter ce matin, Sonia De Villers.
Oui.
Et Jamel Debbouze est la preuve puisqu'il est sur Canal et il va mettre une série qui arrive sur Canal dans laquelle il joue.
Bon. Donc c'est Sonia... le terminal, je crois.
Comment ?
Le terminal, je crois. Terminal.
Donc Sonia De Villers, c'est un cas d'école. Sonia De Villers, on va lui dire, c'est formidable, puisque manifestement, Vincent Bolloré est parfois attaqué, Canal est parfois attaqué, mais vous êtes sur Canal, donc vous êtes la preuve vivante que sur Canal, on peut rire, on peut avoir des séries innovantes, etc. C'est ça qu'elle devrait lui dire. Et en fait, c'est le contraire. Elle va presque l'engueuler d'être sur Canal. Et puis s'il n'y était pas, elle lui dirait ensuite qu'il faudrait qu'il y soit. Donc c'est des raisonnements parfois chez mes excellents confrères que j'ai du mal à suivre. Voyez cet extrait que je trouve un peu ubuesque.
Canal+, il a changé. C'est plus le canal de De Greff et Lescure, c'est le canal de Bolloré. Vous vous êtes posé cette question-là?
Non.
Non.
Non, non, non. Moi, j'ai eu le canal de Bolloré. Avant Bolloré, il y avait Fourtou, il y a eu Messier. Après Bolloré, il y aura certainement d'autres patrons. J'en suis à mon cinquième président de la République, et mon quatrième président de Vivendi. J'attends. Vous voyez ce que je veux dire, c'est des choses immuables, ça change.
Donc rien n'a ciré, c'est pas votre problème.
Rien n'est figé. Non, le monde bouge. Dans 2 ans, on aura probablement tout un autre discours, tout dépendant de ce qui va se passer la veille. Enfin, c'est tellement mouvant que c'est bizarre de faire une analyse figée.
Bon, c'est pas bizarre, c'est que Canal a quand même beaucoup changé et que la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on peut rire de tout sur Canal aujourd'hui ?
Je vois tout à fait où vous voulez en venir, mais de là où je suis, vous savez, nous... On est des troubadours, on arrive sur un plateau, on fait notre travail, on espère que ça touchera le plus grand nombre et on rentre chez nous. Que ça soit Radio Nova ou Canal+, j'ai pas beaucoup eu affaire au patron.
Ouais.
Bizot, il descendait de temps en temps pour prendre un verre, ça c'est vrai. C'est vrai. Mais on a rarement croisé Vincent Bolloré sur un plateau, donc la vérité, avec le Jamel Comedy Club, il y a davantage de diversité, comme ils adorent l'appeler. On a filmé pour la première fois de notre histoire un trans sur notre scène. On en était très fiers. On avance avec notre époque et il y a rien qui peut empêcher ça.
Bon, c'est la série Terminale. C'est à partir du 22 avril et c'est exclusivement sur Canal. Bon, mais l'interview est sidérante.
Extraordinaire.
C'est sidérant de dire ça, parce qu'il dit « Ah, Canal+, a beaucoup changé ». Ben non, justement, puisque, bien sûr, Canal+, a changé, mais précisément, vous étiez avec un autre président et vous êtes toujours présent. Donc, elle pourrait tirer
conséquence de la présence de Jamel Debbouze. Eh bien non. Et elle veut lui faire dire...
Sans vouloir être...
ce qu'il n'a pas envie de dire. Et évidemment, Debbouze est très intelligent.
Oui, oui, bien sûr, mais sans vouloir être désagréable, n'essayez pas de trouver une grande cohérence intellectuelle. Ça tient à De Villers.
Ah ben si, la cohérence, je la vois, c'est Madame
quel...
De Villers.
Non, mais c'est quelqu'un, elle va loin. Oui. Elle a demandé des listes, dont mon nom. Elle a sorti mon nom avec, je ne sais pas, des gens qui allaient sur CNews. Elle va loin. C'est quelqu'un qui trouve que Jean Genet, elle reçoit un Palestinien, très bien, qui est d'ailleurs très bien, Ilias Sandberg. Alors, elle trouve Jean Genet... un écrivain merveilleux. C'est un adorateur des SS. Et elle va faire la leçon à CNews. C'est quand même pas mal. Donc, il n'y a pas de cohérence intellectuelle.
Et sur Canal+, il y a aussi la fièvre, quand tout s'embrase.
Je sais oui, pas mais si vous avez vu. Il y a surtout un manque de formidable. Courage. Il y a un manque de courage. Il y a voilà, ce côté, effectivement, panurge. Voilà. Elle dit, ah oui, mais là, c'est le Canal de Bolloré, t'as l'impression que... Mais,
Pas elle lui reproche.
Je ne sais pas ce qu'elle pense.
Elle lui reproche de ne pas avoir claqué la porte.
Oui, voilà. Oui, mais si il avait claqué la porte, oui, elle prendrait ça comme un exemple oui, précisément
du fait qu'on puisse gagner encore. Ouais,
ah oui. À tous les coups, c'est gagnant.
C'est ça qui est sidérant, c'est ce que je vous dis depuis le départ. Non, mais... Donc Madame Sonia De Villers, ben voilà, elle est enfin, évidemment.
C'est... Pile, tu perds.
Elle pose pas de questions. Elle pose pas de questions à Jean-François Killy qui est en très grande difficulté sur France Info. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Ces gens-là, c'est deux poids deux mesures. On attend d'ailleurs toujours pour Monsieur Akili, Reporters sans frontières, ne l'aide pas beaucoup. Les syndicats qui font la loi France Inter ne sont toujours pas intervenus. Parce que sur les France Inter, chaque fois je le dis, les dirigeants servent à rien à France Inter ou à pas grand-chose. Mais... c'est les syndicats qui décident. Il faut le savoir. Tu es directeur d'une réaction. En fait, tu ne décides pas. C'est important de le savoir. C'est les syndicats qui décident et qui font la loi. Tu te soumets ou tu te démets, comme Mac Mahon. Patrick Peloux.
Que d'eau.
Et Patrick Peloux. Patrick Peloux.
Oui.
Qui a réagi ce soir à l'enquête de Paris Match. J'observe d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les petits tweets de Mathias Vargon. Mathias Vargon, pareil, qui... parce que c'est match, et parce que, dit-il, c'est dans les médias Bolloré, donc ça n'existe pas. Vous pouvez peut-être réagir là-dessus, vous avez peut-être vu Mathias Vargon, qui est un médecin, qui était intervenu, très présent dans le Covid. Donc alors là, pour lui, manifestement, Peloux, c'est pas un problème. Pourquoi ? Parce que c'est sorti dans Paris Match.
J'ai deux choses à dire. D'abord, l'enquête, elle est sérieuse. D'ailleurs, elle n'a pas, pas de... comment dirais-je, de contre-enquête sérieuse sur ce sujet. Par ailleurs, c'est très facile et c'est très utile de se focaliser sur Peloux. Ça évite d'ouvrir plus grand les portes de ce qui se passe au sein de l'hôpital. Parce qu'on a sorti quatre noms, celui de Peloux étant le plus connu, mais il y en a trois autres aussi. Et ça évite de se pencher sur, vous avez vu, le ministère de la Santé, qui quand même, il se passe quelque chose. Donc déjà, notre enquête, elle a au moins permis à quelque chose, c'est que depuis une semaine... Mais... on commence à réaliser qu'il y a peut-être des mandarins de la médecine qui auraient des propos et des tenues et des comportements un petit peu inutiles, pervers et excessifs à l'égard des aides-soignants ou des aides-soignantes.
Mais tous les...
je voudrais juste vous dire qu'à ce stade, ce soir, on est lundi soir, nous n'avons reçu aucune plainte de personne sur ce sujet.
Alors, Mathias Vargon, qui avait posé d'ailleurs avec Paris Match, avec son épouse.
Absolument, ancienne ministre.
Voilà, ancienne ministre, ils ont posé ensemble. Voilà. Donc, monsieur Mathias Vargon, donc lui, il est médecin. Voilà ce qu'il a déclaré. En tout cas, belle opération de Paris Match. Le CNews de la presse, donc c'est vous, qui d'un cas douteux, c'est ce qu'il dit, monsieur Vargon.
Ça veut dire quoi, un cas douteux ?
Je ne sais pas ce que ça veut dire, il faut lui demander. Est en train de faire tous les médecins, des Weinstein en puissance.
Oula.
Je ne crois pas que c'est ce que vous avez fait.
Oula. Ça, c'est à la limite de la diffamation, d'ailleurs.
Écoutez, libre à vous de l'attaquer ou pas. Donc, en tout cas, belle opération de Paris Match, le CNews de la presse, qui d'un cas douteux est en train de faire de tous les médecins des Weinstein en puissance, avec la bénédiction de la gauche, belle opération de populisme contre les élites.
Mais voilà que répond-il aux nombreux témoignages ?
Mathias Vargon.
Je rappelle que M. Valtoux, donc ministre délégué de la Santé, va réunir à la fin du mois tous les responsables, aux responsables de la médecine de certains hôpitaux, pour s'enquérir, pour s'inquiéter de savoir ce qui se passe réellement derrière les murs blancs et de certains CHU et hôpitaux.
Et il dit, moi je pense que Anne Jouan était, monsieur Wargon toujours, Anne Jouan était une bonne journaliste quand elle a sorti le Mediator. Désormais, son truc, c'est le buzz.
C'est drôle.
Donc manifestement, on couvre un peu. Voilà, on couvre un peu du côté de monsieur Wargon. Oui, manifestement, ça n'existe pas. Pas chez nous, c'est ce qu'il veut nous dire.
Pas chez nous, mais on verra bien. Laissons les choses
à monsieur Wargon, qui se revendique du progressisme à longueur de prise de parole, devrait se réjouir effectivement qu'une enquête d'un grand magazine comme Parrainage puisse révéler un certain nombre de comportements qui ne devraient pas avoir cours, y compris dans l'hôpital public, et qui font du mal à la condition de la
prudence. Il devrait se réjouir que son ministère de tutelle prenne le sujet à bras le corps.
Mais il devrait être prudent.
Bien sûr.
C'est-à-dire, il devrait être prudent. Soit il sait des choses, soit il n'en sait pas. Mais il me semble que
sur un sujet comme cela, il devrait surtout écouter les témoignages depuis la publication de l'enquête dans Paris Match.
C'est
vrai. Tout hospitalier, avec notamment des jeunes internes des hôpitaux dans tous les territoires, dans les CHU notamment, qui disent la réalité des dernières années. Et c'est pas tout à fait récent.
Patrick Pelou, je ne sais pas si on a vu d'ailleurs, il a répondu à Paris Match, contacté par Paris Match. Ok, Karine Lacombe a sorti ça dans un livre, mais qu'est-ce qui lui a pris? Alors là, je suis sur le cul, putain, je vais être obligé de lui coller un procès, n'importe quoi, je n'ai jamais agressé personne, jamais. On était trop grivois comme on l'était alors, voilà, ce que nous disions et ce que nous faisions est infaisable aujourd'hui, c'est sûr, mais on rigolait bien. Bon. On a parlé notamment de toutes ces femmes qui ont toussé un soir. On a aussi parlé, et je vais le redire ici, de gens qui, en direct, nous ont rapporté des choses. Et on n'en dira pas plus. Mais ce sont des gens en direct qui nous ont dit « voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé ». Donc comme il n'y avait pas de preuves, effectivement, on ne le disait pas. Moi, je ne l'ai jamais dit. Je n'en ai jamais parlé.
Et je rappelle que M. Pelou a été exfiltré en quelques jours de l'hôpital Saint-Antoine où il était pour gagner un autre service.
Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas
notre hôpital
sur Patrick Pelou et donc affaire à suivre. Il y aura peut-être jeudi prochain.
Jeudi prochain, ce sera notre jeudi qui arrive non, mais on travaille pour quelque chose avec d'autres cas. Effectivement, il se trouve que nous avons été alertés. Anjo aussi a reçu des témoignages édifiants sur d'autres médecins. Nous regardons ça attentivement. On s'acharne sur personne. Bon, regarde, la parole se libère, visiblement.
Deux, trois choses peut-être avant de nous quitter. Le projet de loi sur la responsabilité des parents lorsque leurs enfants mineurs sont en dehors de la loi. Je voudrais juste qu'on écoute Éric Dupond-Moretti.
Est-ce que les gamins, on peut leur mettre dans la tête quand on est parent que quand ils vont dévaster une crèche, ils pénalisent leurs propres frères ou sœurs plus petit, est-ce qu'on peut avoir ce discours pédagogique? Moi, non seulement je pense qu'on peut l'avoir, je pense qu'on doit l'avoir, et que si ce discours n'est pas tenu, alors il faut rappeler les parents à leurs obligations, même à leurs obligations légales.
Donc ça, c'était en juillet dernier, et ce matin, le journal L'Opinion publiait le projet de loi envisagé par le ministère de la Justice pour lutter contre la délinquance des mineurs. Le texte devrait être examiné en début d'été, un an après Zemmour. Écoutez, je pense que ça ne sert absolument à rien. Parce que généralement, les parents n'ont pas beaucoup de moyens, généralement, quand ça se passe, et on l'a vu avec les émeutes. Je trouve que c'est de la com, pure et dure, et que ça ne changera rien à rien. Tout le monde peut être d'accord là-dessus, mais il n'empêche qu'on perd du temps à mettre des...
Il y a un second volet, la sanction pénale des mineurs dans le texte.
Cela dit, il faut bien faire porter la responsabilité et la réparation sur quelqu'un.
Oui, mais ça change. Est-ce que vous pensez que ça change?
Aux États-Unis, on a condamné des parents à 10 ans de prison parce que leurs enfants avaient commis des actes terribles. Ça n'a rien changé à la criminalité juvénile aux États-Unis, donc ça marche pas.
Condamner quelqu'un à 10 ans de prison.
Non, mais
c'est vraiment...
Et vous avez raison, Pascal. Le plus souvent, les parents sont eux-mêmes dépassés par ce que font leurs enfants et ne savent même pas ce qu'ils sont en train de commettre. Non, mais si, mais directement sur les enfants.
Par exemple, la dernière
victime, il faut prendre les gosses, les mettre dans des centres de rétention, dans des centres, pourquoi pas, les rééduquer,
dans des maisons de correction.
Ce que vous voulez, mais effectivement, c'est le genre de truc qui sert absolument à rien.
Je le trouve quand même négatif et sévère.
Bah, c'est possible.
Je ne dis pas que c'est une. Parce qu'on peut baisser les bras, mais ce n'est pas une recette miracle. Mais ça peut influencer quand même certains parents. Ça n'est pas fromage ou dessert. Tu peux également, en même temps, faire de la répression sur les mineurs. Et puis, ça montre aussi l'évolution des choses. Je peux vous dire que le même Dupond-Moretti, il y a 10 ans, il était dans l'incapacité de concevoir
qu'on puisse réclamer des comptes à des gens qu'il considérait comme victimes de la société.
Voyez,
ça montre quand même
une évolution
dans le réel.
La difficulté, parce que tous veulent faire souvent de la com', si M. Dupond-Moretti, il vient là et qu'il dit « je pense que ça va marcher », moi je vais dire « je pense que ça ne marchera pas », mais comme 9 personnes sur 10 qui nous écoutent, sauf que ça marche pas.
Mais le tu casses pas, c'est important.
Mais tu peux pas lui prouver. Donc tu peux pas
dans
parler
le même, d'élection. Dans le même
mais tu reviens dans 5 ans.
Je pense qu'il faut pas être négatif là-dessus.
Mais, ça, mais tu reviens dans 5 ans, je pense que ça changera rien. Et qu'il y aura pas une condamnation. Et qu'il n'y aura pas un parent de condamné.
Bien sûr.
J'en suis prêt à prendre le pari.
Mais tu casses, tu payes, c'est important.
Non, mais dans le même journal, Béatrice Brugère dit il faut des sanctions rapides. Quand il y a une faute,
non, mais c'est plus
il
faut la sanction rapide, la solution,
que la sanction tombe rapidement
bien sûr.
Et qu'elle soit réelle. Cette césure qui existe entre la culpabilité et après la sanction fait que la situation est intenable.
Au Pays-Bas, tu peux être condamné
et 48 heures après. Ça peut être rectifié,
ça. Mais c'est possible.
C'est la rapidité de traitement, c'est les maisons de correction fermées ou semi-fermées.
Dernière chose, faut donner sa chance au produit. Port d'armes dans la police municipale, à Nantes, 98%. 98% des policiers interrogés veulent être armés, police municipale.
Bah oui,
la maire dit non.
Oui. Ils ont raison. Oui.
La maire dit non. Écoutez le sujet de Mickaël Chailloux.
À Nantes, les 130 policiers municipaux sont équipés d'un pistolet à impulsion électrique, modèle X2. Même si la municipalité socialiste a beaucoup évolué et investi sur la sécurité, équiper la police municipale d'une arme létale reste un tabou.
C'est une décision personnelle et politique, c'est ce que l'élu nous a rétorqué l'année dernière lorsqu'on lui a clairement posé la question du pourquoi on ne nous équipe pas d'armes létales. Tout ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui nous dépendons de la police nationale pour notre sécurité. Je voudrais simplement que mes collègues et moi-même puissions nous défendre et protéger les Nantais seuls.
Les fonctionnaires de la police nationale soutiennent la revendication des municipaux. Au syndicat Unité, on estime que la majorité municipale nantaise doit sortir d'une position dogmatique sur la question, car la rue a évolué.
Pour les délinquants moyens, il n'y a pas de différence entre un policier municipal et un policier national. Quand il est dans la rue, c'est un uniforme. On a pu le voir dans des occasions, à Nice notamment, où c'est la police municipale qui a été intervenue les premiers. Et s'ils n'avaient pas été armés, ils n'auraient pas pu neutraliser le terroriste.
Dans un sondage réalisé en interne il y a quelques jours, les policiers municipaux nantais se sont prononcés à 98% pour être équipés d'une arme létale.
Moi, j'y suis parfaitement favorable, mais par contre, je doute que ce soit, c'est un peu comme le sujet précédent, je doute que l'armement de la police municipale à Nantes suffise à régler le problème de l'insécurité grandissante, du deal, des violences aux personnes, des coups de couteau. C'est mieux que rien.
Mais expliquez-moi.
Mais le problème est plus profond.
Pour le citoyen, quelle est la différence entre un policier municipal et un policier national ? On attend les mêmes services, on attend les mêmes efficacités, on attend la même mission pour l'un comme pour l'autre. Donc, sous prétexte, si on a un qui est armé, il aura une mission plus large que celui qui n'est pas armé, où on sentirait plus en sécurité auprès de l'un qu'auprès de l'autre. Il faut égaliser tout ça.
Oui, il faut des moyens pour la police républicaine. Pour moi,
c'est
encore
un petit peu différent.
Mais alors, comment tu règles
une arme?
Oui. Comment tu fais entre communes pauvres et riches? Des communes peuvent se doter, mais c'est une réalité, de police municipale. Je ne suis pas défavorable à la vidéosurveillance, à la police municipale.
Mais c'est pas le sujet.
Mais c'est le sujet.
Mais non, le sujet, c'est la position idéologique de la gauche.
Ça ne vient le sujet de la gauche.
De Madame Johanna Roland, si vous voulez. Mais comment dire, le sujet de Mickaël Chailloux, c'est simple.
Oui.
C'est la position idéologique.
J'ai bien compris.
D'une certaine. Mais Madame Appéré à Rennes, c'est la même.
Bien sûr. Oui,
les deux ne veulent pas de police
mais
municipale.
Les électeurs
armés.
Mais c'est les mêmes
qui ne voulaient pas de milliers de caméras.
Pardonnez-moi, Olivier Dartigolle, ce n'est pas le sujet que je vous demande. Le sujet que je vous demande, c'est ce que vous en pensez, vous.
Ah,
et vous êtes tellement gêné aux entournures.
Non, vous me dites.
Mais non, vous répondez à côté.
Je pense que la sécurité est une question régalienne.
Pour les armées ou pas?
Je suis favorable à l'armement de la police municipale et à la vidéosurveillance.
Bon.
Mais je pose la question de rupture d'égalité territoriale selon les municipalités. C'est un vrai problème. D'accord. Vous avez des mairies qui ne peuvent pas se doter de police municipale aujourd'hui. Ou alors il y a une métropolisation.
Oui,
c'est-à-dire que quand vous êtes en métropole, vous bénéficiez de ce service-là. Mais quand vous êtes dans la ruralité...
Mais l'égalité face à l'insécurité, c'est la police
nationale. Ou dans des chefs-lieux, vous ne l'avez pas.
Tu as raison.
Vous devriez tenir sur les missions d'État.
Mais chaque recul de l'insécurité...
Parce que ce continuum de sécurité qu'on nous vend...
Vous savez ce qui s'est passé à Nantes en janvier dernier? Des policiers municipaux face à un homme qui avait un couteau.
Oui.
Il finit par lui jeter son vélo.
Non, mais on n'est pas en désaccord, mais vous entendez pas ce que je vous dis.
Vous entendez ce que je dis.
Non, mais sur les différences de moyens, c'est vrai.
Vous entendez ce que je dis.
Mais vous, par contre, vous n'écoutez pas ce que je dis.
Moi, c'est un exemple concret. Il y a 98% des policiers municipaux qui demandent ça.
Oui, je suis d'accord.
Je vous cite un cas concret. Un homme avec un couteau en janvier dernier. Ils lui ont jeté son vélo.
L'armement de la police municipale ne me pose aucun problème.
Bon, c'est tout. Mais en réalité, les malfrats sont de plus en plus armés jusqu'aux dents. Donc, dans le match police.
Ils ont des armes de guerre.
Entre police malfrat, il me rassure en tant que citoyen que les policiers soient plus armés.
Y compris pour leur propre sécurité. Y compris pour leur propre sécurité.
Évidemment.
Un policier municipal avec un taser face à quelqu'un qui a une arme
c'est une question,
lourde.
C'est une question d'idéologie, on l'a dit de nombreuses fois. À Rennes, Mme Appéré, en l'année dernière, elle est allée dans une conférence avec la France Insoumise.
C'est vrai.
La police tue.
Donc, mais ça, c'est scandaleux.
Un problème idéologique.
Oui.
Pour elle, la police tue. Donc elle est cohérente avec elle-même, d'ailleurs.
Oui, je ne conteste pas la question idéologique.
Et comme vous le dites très justement, ça sera les électeurs, la prochaine fois, qui décideront. Oui. Et vous avez raison. C'est en 2026.
Oui.
Il est 21h01 et nous avons terminé. Et c'est l'ami Olivier Benkemoun qui va arriver.
Bonsoir Pascal,
bonsoir
à tous. Évidemment, tous les regards sont tournés vers le Proche-Orient et le meilleur de l'info sera consacré intégralement, exclusivement à ce qui se passe en ce moment, puisque une riposte a été décidée par Israël, imminente sans doute dans les prochaines heures. L'aviation est en train de se préparer. Est-ce que c'est ce soir? Est-ce que dans quelques minutes, dans deux heures, un peu plus tard? On va essayer de décrypter. On sera en direct avec Israël dans un instant. Colonel Rafovitch sera avec nous. Et en plateau, Général Desportes, Meir Habib et Pierre Lelouch pour analyser et comprendre tout de ce qui se passe au Proche-Orient ce soir.
Une dernière information. Vous vous souvenez qu'une femme avait pensé reconnaître Xavier Dupont de Ligonnès.
Ça n'est pas lui.
Que le procureur de Montaut avait demandé une expertise ADN. Eh bien, l'homme aperçu dans le Doubs n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. Les ADN, les résultats ADN sont formels. Le parquet de Nantes a indiqué l'ADN analysé dans le Doubs après un signalement en mars ne correspond pas à celui de Xavier Dupont de Ligonnès.
Il me souvient que d'aucuns autour de cette table avaient apporté quelques foi à ces déclarations. Je n'en dirai pas davantage.
On est visé tous les deux.
Je n'en dirai pas davantage.
Vous n'êtes pas sérieux.
On a le droit d'aimer cette histoire.
C'est un sens de la charité.
Vous n'êtes pas sérieux, j'espère.
Non, c'est nous.
On a trop de mémoire.
Vous
n'êtes pas sérieux.
Vous voulez que allez, demandez à la clientèle de regarder l'enregistrement que ça va être vite fait.
Jean-Luc Lombard était à la réalisation. David Tonnelier. David Tonnelier était au son. David Tonnelier était à la vision, pardonnez-moi. Amanda était au son. Benjamin était avec nous, Lucas Busutil et Guillaume Lafage étaient de retour avec nous aujourd'hui. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Olivier Benkemoun et Julien Pasquet dans une seconde.
Qui est encore perdu visiblement.